Marielle Massé, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, d'où parlez-vous ?
Sciences sociales à Paris. Je suis spécialiste à la fois de littérature et de sciences sociales et je suis aussi écrivaine. Les livres que j'écris sont entre l'essai et le poème.
Vous publiez Respire à cette rentrée littéraire 2023. Vous avez axé votre livre sur une question quand même politique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, c'est un livre sur la respiration comme activité vitale dans plein de dimensions de notre existence. Alors vous commencez par celles qui sont peut-être les moins évidentes, mais en fait aussi parmi les plus précieuses que j'ai essayé de soulever dans le livre, puisque la respiration, c'est une affaire du corps et de la santé du corps, c'est une affaire des environnements et de la santé des environnements, mais c'est aussi une affaire des liens sociaux ou de leur absence ou de leur brutalité, c'est aussi une affaire des environnements politiques, si on peut le dire comme ça, de ce qui s'y passe, de ce qu'on peut y espérer, des violences qui les traversent et des désirs qu'on peut y déposer. Donc oui, respirer, c'est au cœur de toutes ces dimensions-là de l'existence. Et c'est une question sociale et politique dans la mesure où on n'est pas tous exposés de la même manière à la toxicité de l'air qui nous entoure. Les pollutions, les violences, les découragements ne font pas leur chemin de la même manière dans les poumons des plus précaires et de ceux au contraire qui peuvent accéder à des paysages de meilleure santé. Et donc voilà, il y a cette dimension fondamentale de l'inégalité des corps, des âmes, des métiers, des classes, des couleurs de peau devant l'air qu'on respire.
Ce qui est intéressant, c'est que vous partez d'une action salutaire, vitale, essentielle, et que vous la politisez. Donc ça vaut pour la respiration, mais ça vaut aussi plus loin. Vous allez jusqu'à la politiser la parole, vous parlez de zone à défendre. Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter un petit peu sur cette question ? C'est ce terme, zone à défendre, qui, moi, m'a beaucoup percutée.
Moi, mon équipement, mon arme, mon moyen, mon engagement, mon militantisme, c'est... je pourrais dire celui de la parole et donc aussi de l'écoute. Et j'essaye de développer à la fois une pensée et une pratique de la parole comme l'une de nos responsabilités collectives, l'une de nos responsabilités sociales, politiques et écologiques, parce que j'ai le sentiment que la manière dont on parle du monde qui nous entoure, la manière dont on se parle, ce que l'on peut attendre de la parole les uns des autres, c'est une question profondément collective. Il y a les gestes qu'on accomplit, les actes qu'on est capable de soulever, mais il y a aussi les phrases qu'on dépose entre nous dans les milieux que l'on habite. Et il me semble que nos façons de parler, elles font aussi partie de la plus ou moins grande toxicité ou de la plus ou moins grande santé de nos environnements. La parole politique, la parole médiatique, mais nos échanges aussi participent soit d'une pollution supplémentaire, soit tout à coup de l'ouverture d'une clairière qui fait qu'on va réussir à se mettre ensemble, à partager des courages et puis à s'animer vers un même but. C'est pas seulement que la parole se soit... à propos du monde, c'est que la parole, elle est dans le monde et on la fait autant qu'on fait nos vies, nos actions, nos métiers.
Vous avez un écrit quand même très théorique, mais de l'autre côté, vous avez des illustrations très pratiques qui vont parler à tout le monde, qui sont très criantes. Est-ce que vous voulez en développer une ?
Oui, alors c'est théorique au sens où ça essaye de soulever un propos, de le soutenir, de le rendre intelligible, partageable et à partir de là aussi de contribuer à rendre le présent plus respirable. Mais ça s'appuie sur plein d'histoires et ça s'appuie aussi sur mon histoire à moi. Et si j'ai eu envie d'écrire sur la respiration, c'est que de la même façon que beaucoup, beaucoup d'autres gens, j'ai une longue histoire dans la respiration, une longue histoire dans des difficultés à respirer, que ce soit du fait de maladies qu'on est très nombreux à partager, allergies, asthme, mais aussi du fait que je sois née dans un paysage particulièrement toxique, au bord de l'estuaire de la Loire, dans une petite ville qui avait été pendant longtemps l'avant-port de Nantes et le point de départ des navires négriers, donc là il y a aussi des raisons d'étouffer, et qui est devenue progressivement un haut lieu de la chimie et de la transformation pétrolière aujourd'hui. C'est une petite ville qui s'appelle Paimboeuf, et donc on toussait beaucoup à Paimboeuf, en face des très grandes raffineries de Donge et à l'ombre des usines Kuhlmann, qui après avoir été productrice de gaz asphyxiant pendant la Seconde Guerre mondiale, était aux avant-postes de la production des pesticides. Et puis, je suis familière de pathologies professionnelles, puisque parmi les maladies professionnelles, les plus répandues sont les pathologies respiratoires, que ce soit à l'usine, dans le monde de l'agriculture, dans celui de la boulangerie, comme c'est mon cas. Voilà, il y a des façons d'avoir du mal à respirer qui sont directement en lien avec la condition sociale qui nous est faite. C'est vrai que pour moi, c'était très fort de pouvoir tracer un lien entre une expérience très intime de la difficulté à respirer et puis cette façon dont se répand le sentiment de l'irrespirable dans plein de dimensions actuelles de notre vie. Et je pense que la respiration, c'est ça pour chacun de nous. C'est la zone qui s'ouvre entre le plus intime et le plus collectif.
on pourrait ressentir l'absence de propositions concrètes. Ce n'est peut-être pas le sujet de l'essai. À votre avis, il y a des propositions concrètes dans votre essai ?
Oui, alors c'est un livre de poésie, donc je cherche pas à donner des leçons, disons, sur la manière dont il faudrait respirer. C'est un livre qui déjà essaye de rassembler, de faire converger des dimensions autour d'une même question. Et s'il y a des propositions concrètes, elles tiennent à ce domaine qui est celui dans lequel moi j'œuvre et qui est celui de la manière dont on s'y prend les uns avec les autres, la manière dont on parle et le soin qu'on prend à ce territoire qui est l'une des régions les plus polluées de la planète et qui est justement le territoire de la parole. Donc il ne s'agit pas de donner des recettes pour savoir comment bien respirer, mais plutôt dans une forme d'écriture qui est justement pas l'écriture, c'est un livre de littérature, c'est-à-dire c'est un livre qui essaye de s'écrire de façon respirable, qui essaye de donner du souffle dans l'acte de lecture lui-même, qu'on n'en sorte pas un peu plus désespéré et un peu plus suffoqué, mais qu'on en sorte avec une sorte de courage physique et social un peu plus grand. Pour moi, c'est ça le but d'une écriture littéraire, c'est de ne pas prendre seulement la respiration pour thème, mais d'en faire aussi un but très matériel, très physiologique de l'acte de lecture. Il y a beaucoup de discours aujourd'hui qui portent sur les pollutions, qui réclament de l'air, mais il y en a beaucoup aussi qui, en réclamant de l'air et en partageant, disons, de très nouveaux et très grands besoins d'un air partagé, nous rendent les choses encore plus asphyxiantes. Pour moi, l'enjeu d'un texte littéraire, c'est de calmer la voix, c'est de calmer la respiration de celle ou ceux qui lisent, c'est-à-dire c'est de donner du courage. Donc en effet, il n'y a pas des solutions, mais il s'agit de nous mettre tous dans une disposition un petit peu différente.